Vous écoutez On lit pour vous.
La force que l'on prend pour de la faiblesse. Un texte de Jeannie Duquette, paru le 23 juin 2026 dans la presse. La quatrième saison de Survivor Québec s'est terminée sur la victoire d'une femme qui a défendu un leadership discret mais affirmé. Une forme de pouvoir que l'on peut voir autant sur les plages du Panama que dans des conseils d'administration, explique Jeannie Duquette, stratège leadership numérique, présidente de Jeannie D, capital d'influence. Catherine Huet a remporté la quatrième saison de Survivor Québec et déjà le même reproche. Elle n'a presque pas gagné d'épreuve. Le sous-entendu est clair. Pas de victoire physique, pas de domination. Je pense exactement l'inverse. Les épreuves qu'elle n'a pas gagnées rendent sa victoire plus impressionnante, pas moins. Parce que Survivor, ce n'est pas les Jeux olympiques. On n'y gagne pas en s'accrochant le plus longtemps à un poteau, mais en lisant les autres, en bâtissant des alliances, en survivant à chaque vote jusqu'au bout. Ce ne sont pas les bras qui font gagner Survivor, c'est la tête. Ça fait des années que j'écris sur Survivor. Pas parce que c'est une télé-réalité, parce que c'est l'un des laboratoires humains les plus honnêtes qui existent. Le pouvoir, les alliances, les billets, le leadership s'y jouent à ciel ouvert, sans le vernis qu'on met d'habitude par-dessus. J'ai passé ma carrière à observer ces mêmes dynamiques dans les coulisses, là où elles sont beaucoup plus difficiles à lire. Un jeu subtil. Sa victoire, je l'ai vue venir depuis des semaines. Les critiques aussi. Pas de coup spectaculaire. Un jeu jugé trop prudent. Les amateurs avertis de Survivor le savent. Gagner grâce aux immunités est difficile. Gagner sans immunité, sans avantage majeur et sans jamais déclencher chez les autres l'urgence de vous sortir, c'est encore plus difficile. Et puis, il y a l'autre argument, celui qui revient sans cesse. Elle avait déjà joué. Justement, elle arrivait avec 17 jours d'expérience et une lecture du jeu supérieure à tout le monde. Dans la plupart des saisons, ça fait de vous la cible numéro 1. Elle, personne n'a osé la sortir. Elle a contrôlé la partie depuis le premier jour sans jamais être réellement en danger. Une revenante, la menace la plus évidente du jeu, qui traverse 40 jours intacte. Parce qu'elle a réussi ce que seuls les très grands joueurs réussissent, tisser des liens assez solides pour que les autres oublient qu'ils devraient avoir peur d'elle. C'est du grand art. Du grand Survivor. Son génie, c'est d'avoir mystifié les autres. Ceux qui partageaient sa plage n'ont sans doute pris la mesure de son emprise qu'une fois rentrés chez eux, en regardant les épisodes. Elle ne jouait pas seulement la partie. Elle en écrivait le récit. En la regardant, je pensais souvent à Thierry Field, que plusieurs considèrent comme l'une des plus brillantes joueuses de l'histoire du jeu. Même intelligence sociale. Même capacité à influencer sans imposer. Même talent pour orienter une partie sans jamais courir après les projecteurs. Le paradoxe est complet. On l'a regardée comme une joueuse faible. Elle a contrôlé le jeu du premier au dernier jour. L'autre pouvoir. Que le jury ne l'ait pas vu, c'est normal. Amer, sorti du jeu, frustré de l'avoir laissé filer, il avait toutes les raisons de ne pas vouloir le voir. Mais le public, la teneur des commentaires me surprend et me déçoit un peu, je dois l'admettre. Parce que si on n'arrive pas à reconnaître cette maîtrise dans un jeu, où va-t-on la reconnaître? C'est exactement là que Survivor rejoint le leadership des femmes. Parce que ce que plusieurs ont lu comme un manque de domination, est peut-être la forme de pouvoir la plus aboutie qui soit. Dans nos entreprises, nos institutions, nos conseils d'administration, combien de femmes influencent les décisions? construisent les consensus, désamorcent les conflits et créent les conditions du succès sans jamais recevoir le mérite qui correspond à leur contribution. On valorise encore le leadership qui se voit. Celui qui parle fort, celui qui occupe l'espace, celui qui revendique ses victoires à voix haute. Il existe une autre forme de pouvoir, plus discrète, plus relationnelle, plus difficile à détecter, et souvent beaucoup plus efficace. C'est du capital d'influence, et on le sous-estime précisément parce qu'il ne fait pas de bruit. Lors de la finale, je n'avais pas seulement envie de voir gagner Catherine Huet. J'avais envie de voir reconnaître une manière de diriger que trop de femmes pratiquent encore dans l'ombre. Influencer sans imposer. Diriger sans réclamer le mérite. Contrôler la partie sans devenir la cible. Pour moi, Catherine Huet a livré l'une des performances les plus dominantes de l'histoire de Survivor Québec. Et j'espère que sa victoire va élargir un peu notre définition de ce qu'est un leadership fort. Parce que la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas dans une télé-réalité. Ce sera dans une salle de conseil d'administration. Et il faudrait savoir la reconnaître. C'était « La force que l'on prend pour de la faiblesse », un texte de Jenny Duquette, paru le 23 juin 2026 dans La Presse.
Tondre ou ne pas tondre? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 juin 2026 dans La Presse. Patricia Normandin, une lectrice, demande « À quelle fréquence devrait tondre sa pelouse? » Certainement moins que ne le veut la norme traditionnelle de la banlieue nord-américaine. Quand on tond son gazon souvent et très court, on le stresse. Explique Tania Handa, biologiste spécialiste de la pelouse à l'UQAM. Il a besoin de plus d'eau et est plus vulnérable aux insectes. Les tontes fréquentes nuisent également à la biodiversité. Depuis 5 ans, Mme Handa mène un projet encore plus audacieux. Abandonner carrément toute coupe sur une portion du terrain. On sait, dit-elle, qu'il y a plus de biodiversité de plantes et d'insectes, notamment de pollinisateurs, dans les terrains où on laisse l'herbe pousser. Et nous avons montré que la biodiversité dans le sol augmente aussi. Cette biodiversité souterraine comprend les vers et divers insectes. Les parcs où Mme Handa a fait son étude sont dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est un arrondissement qui a adopté très tôt la tonte partielle, dit-elle. Il y a des parcs où il y a des sections où il n'y a qu'une coupe annuelle depuis 10 ans, d'autres depuis 5 ans, 2 ans. Madame Handa a mis en ligne un site de vidéo sur les avantages de la coupe partielle. Laisse pousser un brin. Des fois, il y a un manque d'acceptabilité sociale de la coupe partielle, y compris dans les équipes municipales, dit-elle. Quand on est formé à une certaine esthétique des espaces verts, on a l'impression qu'on n'a pas bien fait notre travail en laissant l'herbe pousser. De manière générale, une coupe partielle, avec une portion du terrain ayant une coupe une fois par année à l'automne, pour éviter que de nouveaux arbres poussent, a un sol moins compacté. Les racines des arbres existants poussent mieux, explique Mme Handa. Est-ce que ces sols moins compactés absorbent plus les pluies diluviennes? Ça se peut, mais on n'a pas de données sur ça. Les résultats de Mme Handa sont en voie d'être publiés dans une revue avec comité de lecture et ont été présentés dans des colloques. La tonte partielle augmente de 30 % le nombre d'espèces souterraines et de 70 à 90 un indice multidiversité plus complexe. Elle rapporte que 32 espèces d'insectes se retrouvent seulement dans les parcs avec tonte partielle contre 4 dans les parcs avec tonte intensive partout. Et 77 espèces sont présentes partout. Vermine. Y a-t-il des inconvénients à ne pas couper l'herbe? Madame Handa mentionne 3 problèmes potentiels qui restent à étudier. Les espèces végétales envahissantes, les tiques et la vermine. Il faut voir, explique-t-elle, si laisser pousser l'herbe rend les terrains plus vulnérables aux espèces invasives ou si c'est une invasion seulement transitoire. Une autre crainte porte sur les tiques. On est en train de faire un échantillonnage dans les emprises d'Hydro-Québec pour voir s'il y en a plus. Une parade au problème des tiques pourrait être l'établissement de sentiers avec tonte. Mais si on a des enfants ou un chien qui va jouer sur notre terrain, comment faire? Comme tout le monde qui fait du plein air, on se renseigne sur les dangers des tiques, mais en ce moment, on ne sait pas si la tonte partielle augmente le problème. Les tiques sont notamment liées à la maladie de Lyme. Au niveau des petits mammifères comme les souris, il est en effet probable qu'ils soient favorisés par une herbe plus haute, dit Mme Handa. Mais il est encore trop tôt pour dire que cela se traduira en infestation de domiciles plus fréquentes, selon elle. Étant donné ces problèmes potentiels, pourrait-on avoir une partie des avantages de la coupe annuelle en coupant moins fréquemment ou en coupant le gazon plus haut? Madame Handa est sceptique. Les communautés se transforment assez rapidement quand on les perturbe plus, souligne-t-elle. En savoir plus. Source Statistique Canada. 40 % proportion des Canadiens qui arrosent leur jardin ou leur pelouse. 56 % proportion des Canadiens qui ont une tondeuse à gazon. C'était « Tondre ou ne pas tondre? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 juin 2026 dans La Presse.
Henri IV trouve la parole. Un texte de Natacha Scheidauer, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Des scientifiques travaillent à reconstituer la voix du souverain français à partir de sa tête momifiée. Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comment aurait sonné ce préambule de l'édit de Nantes, promulgué en 1598 pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient la France, lu par le roi Henri IV. Le « Ao » sonore reconstitué par l'équipe pluridisciplinaire dirigée par le médecin légiste et anthropologue français Philippe Charlier nous en donne une première idée. L'histoire commence avec la tête du roi, une relique que Philippe Charlier a contribué à identifier en 2010, après une longue controverse. Assassiné par Ravaillac en 1610, Henri IV est embaumé. Une pratique courante à l'époque pour préserver la dépouille des puissants le temps d'organiser les funérailles. Dans le cas d'Henri IV, les coups de poignard de Ravaillac ont aidé à vider le cadavre de son sang. C'est ainsi une momie bien sèche qui a été inhumée, explique Philippe Charlier, chercheur au laboratoire Anthropologie, Archéologie et Biologie de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, près de Paris. si bien que lorsque la sépulture royale est profanée par les révolutionnaires en 1793, le corps est en excellent état. Celui-ci est alors décapité et on perd la trace de la tête tranchée qui passe entre les mains de brocanteurs et de particuliers. Elle est retrouvée et confiée au médecin en 2008. Par chance, elle possédait toutes les structures anatomiques de la face et du cou, y compris les tissus mous, dont les cordes vocales, se réjouit le chercheur, qui décide alors de reconstituer le tractus vocal du roi, soit le larynx et l'arbre respiratoire supérieur, pour y faire passer de l'air et obtenir des sons. Voix d'outre-tombe. Anthropologue, phoniatre, radiologue, chirurgien ORL. Pour atteindre l'objectif, Philippe Charlier s'entoure de différents spécialistes. Avant tout, l'équipe doit redresser la tête. Tordue sur le côté droit, elle a pris une posture peu propice à la parole. Bien sûr, par respect pour le défunt, la rectification est faite virtuellement. On a réalisé une modélisation puis une impression 3D du conduit vocal, explique le médecin. L'imagerie médicale nous a permis de reconstruire le larynx et les cavités de résonance de la tête du roi. L'équipe s'aide aussi de tomodensitomètres ou scanners et d'IRM d'hommes vivants de corpulence similaire pour reconstituer la langue. Bien que cet organe soit présent, il est atrophié, note le chercheur. Et on ne peut qu'extrapoler l'espace qu'il occupait et la taille du palais mou. Résultat, les voyelles A, I, U et OE entrelacées sortent du tractus vocal 3D et donnent un aperçu plausible et réaliste des paramètres de la voix d'Henri IV, selon l'article publié dans la revue Journal of Voice, même si on est loin d'un discours articulé. La part d'hypothèses en matière de tissu nous oblige à la prudence, indique le chercheur. Pour aller plus loin, il faudrait que l'on s'aide de spécialistes du parler contemporain du roi et que l'on injecte l'accent du Béarn, la province d'où Henri IV était originaire. Au-delà de la curiosité historique, l'équipe voudrait que les résultats acoustiques de cette expérience inédite soient utiles pour la recherche sur la fonction laryngée. Au Canada, près de 8100 personnes reçoivent un diagnostic de cancer de la tête ou du cou chaque année. Ces travaux pourraient notamment permettre à des patients et patientes atteints de cancer ORL de se faire une idée de leur voix post-opératoire. C'était « Henri IV retrouve la parole », un texte de Natasha Scheidauer, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Chercheur amateur, peut-on révolutionner la physique depuis chez soi? Un texte de François Lassagne, paru le 31 mars 2026 dans « Pour la science ». Certains amateurs consacrent des années à des questions fondamentales et aboutissent à des résultats qui leur semblent remettre en cause des théories acceptées par la communauté scientifique. Une ambition qui s'accorde cependant mal avec la démarche scientifique, collective et cumulative. Je vous écris aujourd'hui pour vous présenter une théorie audacieuse qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'univers. Une nouvelle perspective sur le temps. Et si le temps avait une masse? Ce que je voudrais vous proposer, c'est un complément à la théorie de la relativité sur la nature de la gravité. J'ai découvert une erreur fondamentale d'interprétation de l'expérience de Michelson et Morley. Quelle promesse! Chaque année, à la rédaction de Pour la science, nous recevons une poignée de courriers augurant de grands séismes dans les connaissances, en particulier dans le domaine de la physique fondamentale. Ils prennent souvent la forme d'une lettre manuscrite, accompagnée de quelques feuillets imprimés. Parfois, ils invitent à aller consulter une abondante documentation en ligne hébergée sur un site personnel. Ces annonces spectaculaires n'émanent pas de chercheurs en activité, dont le domaine de spécialité et le travail de recherche quotidien seraient justement susceptibles de contribuer en totalité ou en partie aux preuves requises pour soutenir ou réfuter l'un de ces glorieux énoncés. Elles sont le fruit du labeur d'amateurs passionnés qui, le plus souvent, mesurent bien le caractère très audacieux de leurs propositions. Je suis conscient qu'il peut vous arriver, en tant que revue scientifique, de recevoir un courrier d'amateurs qui prétendent, du fond de leur cuisine, refonder la physique, alors qu'ils n'en maîtrisent pas toutes les notions. « Je cours le même risque », nous a écrit l'un d'eux très récemment. Pourquoi courir le risque de s'engager dans un chemin aussi escarpé que celui donnant tort à des générations de physiciens? Ce qui me pousse à tenter la démarche, c'est le désir d'en avoir le cœur net. Ce que j'y trouvais, tient-il la route ou non? Répond notre proposant. Comment ne pas le comprendre? Parmi ces amateurs sans peur, nombreux sont ceux qui ont consacré des années à poursuivre une hypothèse, à en détailler les tenants et aboutissants au fil de longs calculs, à se plonger pour cela sans guide ni boussole autre que des acquis anciens. Nos proposants ont bien souvent exercé une profession à dominante scientifique dans une littérature complexe aux ramifications innombrables. Dès lors que leur hypothèse est susceptible de contredire des cadres théoriques fondateurs, la théorie de la relativité, le modèle cosmologique standard, on mesure l'impatience qui est la leur. Mais ils oublient une chose essentielle. La vérification de toute hypothèse, de surcroît si elle remet en cause une part significative d'un cadre théorique ou des résultats expérimentaux largement reconnus, passe nécessairement par son examen collectif par les chercheurs les plus aptes à l'apprécier, c'est-à-dire des scientifiques ayant acquis, au fil de nombreuses années de formation puis de pratique, une connaissance solide des notions et résultats composant leur domaine de recherche. Cet examen collectif ne peut en aucun cas être conduit par la rédaction d'un magazine de diffusion de la culture scientifique. En pratique, c'est d'ailleurs moins dans ce but que les amateurs les plus ambitieux sollicitent pour la science, que dans l'espoir que l'équipe du journal se fera peut-être leur relais auprès de chercheurs à même de juger de leurs propositions. Ce qui nous ramène à l'écueil premier. La rédaction n'est pas le bon collectif professionnel pour juger de la validité d'une hypothèse de recherche et par conséquent la relayer éventuellement à la communauté compétente. Et cela pointe surtout une limite irrémédiable à la démarche du chercheur amateur, celle de l'isolement. Si le parcours usuel pour devenir chercheur passe par l'obtention d'un doctorat, c'est essentiellement parce que cela implique de consacrer 3 années ou davantage à identifier puis creuser une question nouvelle avec une double exigence. D'une part, acquérir la maîtrise des connaissances acquises sur le sujet jusqu'alors. D'autre part, établir les conditions bibliographiques, expérimentales, relationnelles, qui permettront aux chercheurs du domaine de se prononcer objectivement sur la réponse apportée à cette question nouvelle. Autrement dit, la recherche scientifique, dès son étape fondatrice, se veut collective. Elle se fait non seulement sous le regard des pairs, mais se conçoit de manière à rendre ce regard possible. Pendant la période de thèse, puis à chaque fois que, dans son parcours, le chercheur se saisit d'une nouvelle hypothèse. En conséquence, Il n'est aujourd'hui guère probable qu'un amateur, ayant travaillé des années durant de manière isolée, puisse s'assurer l'intérêt d'un scientifique exerçant dans le domaine approprié. Car son isolement même réduit inexorablement son crédit. Comment accorder temps et attention à une proposition dont il est extrêmement probable, par défaut de mise à l'épreuve régulière, qu'elle porte des fragilités rédhibitoires? Concrètement, celles et ceux parmi les amateurs éclairés qui auront suivi la voie qu'invariablement la rédaction leur recommande, adressez vos propositions à une revue scientifique professionnelle dans le domaine de spécialité approprié pour évaluation par son comité scientifique et risquent malheureusement de n'avoir guère plus de succès. Pour le dire sans fard, il est probable que les chercheurs compétents sur le fond ne s'intéresseront jamais qu'aux propositions faites par d'autres chercheurs qui, par leur formation et leur parcours, leur sembleront, eux aussi, compétents sur le fond. Cela semblera pour certains amateurs déçus de n'être pas lus la marque de communauté fermée sur elle-même, incapable de s'arracher à leurs habitudes, voire, certains s'en indignent, propagatrice de bévues collectives, transmise sans correction à chaque génération nouvellement formée. Je crains cependant que le reproche fait à la méthode scientifique, c'est-à-dire à ce procédé lent et sourcilleux de mise à l'épreuve collective permanente, de n'être un processus ouvert qu'à des pairs cooptés ignore totalement ce qui, au contraire, fait sa force. C'est bien la patience et l'exigence requise pour rejoindre les pairs qui fait de l'expertise de ceux-ci une garantie de solidité de l'édifice des connaissances scientifiquement établi. Non pas pour qu'on n'y puisse jamais creuser la moindre brèche, ni pour interdire qu'on envisage d'en reprendre les fondations. Les cosmologistes en savent quelque chose, eux qui progressent sur un seul mouvement. Mais il est extrêmement peu probable, en effet, qu'un amateur du fond de sa cuisine refonde la physique. Cela n'enlève rien à l'intensité de sa curiosité ni à son admirable opiniâtreté. Sur ces deux plans, l'amateur n'a rien à envier au professionnel. C'était « Chercheur amateur, peut-on révolutionner la physique depuis chez soi ?» un texte de François Lassagne, paru le 31 mars 2026 dans « Pour la science ».